Bonjour à tous. Je pense qu'on a pu entendre aussi la voix du Seigneur par la voix de Marie-Laure, et qui nous disait que si on a un témoin, il ne faut absolument pas le garder pour soi, il faut le passer. Et donc, je voudrais commencer ce matin en vous passant le témoin, en vous disant que ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de Pâques. Dimanche dernier, c'était Pâques. Aujourd'hui aussi, c'est Pâques, parce que Christ est ressuscité. Encore aujourd'hui, Christ est ressuscité, et je suis dans la joie. Et j'avais besoin de vous passer ce témoin-là. Et en vérité, je veux vous le dire, en disant cela, le message de ce matin est déjà commencé et achevé. En fait, je peux aller m'asseoir, parce que je vous ai déjà dit l'essentiel. Je vais vous en dire un peu plus, mais vraiment, nous sommes dans la joie ce matin, parce que Christ est ressuscité. Amen.
Amen.
Oui, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il a enduré sur la croix le châtiment qui nous était destiné à cause de notre péché. Il est mort à notre place comme un agneau pur et sans défaut. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, son Père, notre Père Tout-Puissant. En principe, tout ce que je viens de vous dire ne vous est pas inconnu, pour la plupart. Et en fait, si la plupart d'entre vous sont ici ce matin, c'est à cause de cela. C'est précisément à cause de la victoire de Jésus-Christ sur le péché et sur la mort. Mais j'ai une question cependant ce matin. De quelle façon cette victoire se manifeste-t-elle dans notre vie tous les jours ? Avons-nous vraiment une pleine jouissance de cette victoire dans notre vie quotidienne ? En tout cas, moi, je m'interroge pour moi-même. Et c'est vrai que certains jours, la réponse n'est pas forcément celle que j'aimerais. J'ai le sentiment parfois, certains jours, qu'il me manque quelque chose pour complètement prendre la portée de toute cette victoire que j'ai en Jésus-Christ. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons vécu un moment unique. En tout cas, pour moi, c'était la toute première fois. Nous avons, grâce à Blaise et Chantal, eu l'occasion de célébrer la Pâque selon la tradition juive, de comprendre en fait qu'est-ce qui faisait l'origine de la Pâque et qu'est-ce qui faisait la signification de tout ce que font les Juifs dans la célébration de la Pâque. Et c'est vrai que c'est un enseignement qui est vraiment très, très utile pour nous, de comprendre d'où viennent les choses et pourquoi ces choses sont faites. Et j'ai trouvé vraiment que c'était fait d'une façon très, très pédagogique. Et moi, ça m'a vraiment énormément instruit. Il y a aussi quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à la Pâque juive parce qu'il a choisi ce moment-là pour faire passer un message particulier à ses disciples. Et c'est Jésus-Christ. On a vu, quand on lit les Écritures, qu'il avait particulièrement à cœur de célébrer la Pâque juive avec ses disciples avant d'être livré et de mourir sur la croix. Et il avait une idée par rapport à ça. Il ne le faisait pas simplement comme ça, gratuitement. Une des raisons principales pour laquelle Jésus-Christ voulait célébrer la Pâque avec ses disciples avant d'être livré, c'est parce qu'il avait un message à leur transmettre, un message qu'il voulait qu'il reste ancré dans leur mémoire une fois qu'il ne serait plus là. Un message qui devait aussi les aider à mieux comprendre tout ce qui allait arriver dans les jours qui viennent. Un message, et ça c'est loin d'être négligeable, qui devait les aider à ne pas perdre courage. Un message qui devait les aider à garder confiance. Un message qui devait leur permettre de garder à l'esprit que tout ce qui allait arriver, en fait, n'arrivait pas par hasard, parce que ça arrivait à cause d'un plan parfait déjà prévu par Dieu lui-même. Donc, avant d'en venir au texte principal du message de ce matin, je voudrais déjà lire un texte de ce qui se passe un peu avant. Je vous invite à ouvrir vos livres dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, pour nous remettre déjà dans le contexte et comprendre ce qui va se passer quelques jours après. Donc, je voudrais lire dans Luc 22, à partir du verset 14. En fait, c'est justement ce moment où le Christ célèbre la Pâque selon la tradition juive avec ses disciples, avec un message particulier qu'il a à leur apporter. Je lis au nom du Seigneur. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Et donc cette partie, on va dire, c'est une première partie de ce que Jésus-Christ a à dire à ses disciples. Et il y a une deuxième partie, je poursuis dans sur les versets 19 et 20. « Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui sera versée pour vous. » Autant dans la première partie, dans les versets 14 à 18, on comprend tout de suite que Jésus-Christ est en train d'annoncer une nouvelle qui n'est pas forcément très réjouissante à ses disciples. Il leur annonce carrément de mauvaises nouvelles. Il leur annonce qu'il va souffrir. Il leur annonce qu'il va y avoir aussi avec eux une séparation. Une séparation qui pourra durer très longtemps, jusqu'à la fin des temps. Autant dans la deuxième partie qu'on a vue, on n'est finalement pas très très sûr est-ce que Jésus est en train d'annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle à ses disciples. Mon corps qui est donné pour vous. Une nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. Alors, faut-il s'en réjouir ou faut-il en pleurer? La réalité immédiate, en tout cas, c'est qu'on comprend que Jésus va souffrir et il va mourir. Et ça, c'est une nouvelle triste. Mais est-ce qu'à travers cette nouvelle triste, on peut voir une bonne nouvelle? Ce n'est pas forcément évident comme ça de prime abord, surtout pour les personnes qui étaient avec Jésus de son temps. Encore une fois, pour arriver à aller au-delà de la tristesse de cette nouvelle, il manque quelque chose pour vraiment prendre totalement la mesure de ce que Jésus est en train de dire. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit, Jésus va souffrir, il va mourir et il va être éloigné de nous pour un temps dont on ne maîtrise pas la longueur. Croyez-vous que les disciples et les proches de Jésus qui entendaient cela ont parfaitement compris tout ce que Jésus avait à leur dire? En tout cas, si jamais ils n'ont pas compris, ce n'est pas faute de clarté de l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus a vraiment tout fait pour que ce qui allait se passer, qu'on le comprenne bien. Et je lis juste deux petits versets, vous n'avez pas besoin d'y aller, dans Matthieu chapitre 17 au verset 22, juste pour illustrer ça. « Or, comme ils se trouvaient ensemble dans la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent fort attristés. On ne peut pas être plus clair que ça. Et vous, si vous entendiez ça, vous seriez triste ou joyeux si le Christ vous annonçait sa mort et sa résurrection? Les disciples de Jésus, si on se base sur ce que je viens de lire, ils savaient ce qui devait se passer. Ils savaient que Jésus ne devait pas rester dans la tombe indéfiniment, mais qu'il allait ressusciter le troisième jour, comme c'était prévu dans les Écritures aussi, et comme c'était annoncé à plusieurs reprises par Jésus lui-même à ses disciples, et annoncé de manière publique, parce que Jésus ne s'en est pas caché. Il a annoncé à tout le monde, « Je vais mourir et je vais ressusciter le troisième jour. » Et d'ailleurs, la preuve en est que quand Jésus est mort, vous avez des prêtres et des pharisiens qui sont allés voir Pilate pour lui dire, « Ah ben, il faudrait que tu postes des gardes devant la tombe, parce que celui-là, il a annoncé qu'il allait ressusciter. Si ça se trouve, il a des copains qui vont aller dans la tombe, retirer son corps, et ils raconteront le troisième jour qu'il est ressuscité, et ce sera une imposture énorme. » Donc, il y avait des gardes devant le tombeau pour être sûr qu'il ne se passe rien de pendant la nuit ou que des personnes annoncent indûment que Jésus est ressuscité. Donc, on peut être vraiment sûr qu'il ne s'est rien passé, en tout cas d'un point de vue humain, dans la tombe. Personne n'y a touché. Personne n'y est allé avant le troisième jour. Mais au lieu de se réjouir des paroles de Jésus qui annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le troisième jour, la Bible nous rapporte que les disciples étaient très attristés. C'est évident qu'il leur manquait quelque chose pour vraiment comprendre toute la portée des paroles de Jésus. Il leur manquait quelque chose pour comprendre toute la portée de la bonne nouvelle que Jésus était en train de leur apporter. Et donc voilà ce qui s'est finalement passé ce jour-là, ce jour de Pâques pour nous dans la tradition chrétienne. Donc on va aller toujours dans le livre de Luc, cette fois-ci au chapitre 24, qui est le passage qui fait l'objet de notre méditation ce matin. Donc je vais lire dans Luc 24 à partir du verset 1. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus, du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?»« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?»« Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » »« Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée, et nous venons de le lire. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Après le rappel des anges, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Le dimanche matin de la résurrection de Jésus, des femmes qui l'ont accompagné à tout instant, elles sont parties de lui depuis la Galilée, alors qu'il se rendait à Jérusalem, elles ont laissé tout chez elles, elles ont suivi Jésus, elles l'ont accompagné jusqu'à Jérusalem. Ces femmes-là, qui ont vraiment Jésus à cœur, qui aiment le Christ, le matin, elles n'ont qu'une hâte, c'est se rendre au tombeau pour l'honorer. Mais dans quel état d'esprit elles sont ce dimanche matin? Elles sont en deuil. Elles sont dans une grande tristesse, parce qu'elles sont très attachées à Jésus. Comme je le disais, elles ont tout quitté pour suivre Jésus jusqu'à Jérusalem. Donc on peut, d'une certaine façon, penser qu'elles sont un peu dans le cas des disciples qui, eux aussi, avaient tout quitté pour suivre Jésus pendant tout le temps de son ministère. Et d'ailleurs, d'une autre façon, elles sont aussi très proches des disciples puisqu'elles ont des liens de parenté avec les disciples. C'est pour ça, dans notre histoire ce matin, en fait, je vais assimiler les femmes et les disciples dans le même comportement, d'une certaine manière. Je voudrais aussi, dans cet esprit-là, et pour qu'on comprenne encore mieux ce qui s'est passé ce matin-là, lire la même histoire, mais dans la version qui est racontée par Jean, qui est un peu différente, et qui fait justement, et qui mêle les femmes et les disciples dans la découverte du corps de Jésus ce matin-là. Dans le livre de Jean, au chapitre 20, je pense que c'est intéressant de le lire aussi dans cette version-là. Jean, chapitre 20, à partir du verset 1. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé en premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Et les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Vous le croyez, ça? Alors, si j'ai pris aussi ce texte, c'est parce que je ne voulais pas qu'on pointe le doigt sur les femmes en se disant, ben, elles ont reçu l'enseignement comme les disciples, mais elles n'ont rien compris, elles sont allées au tombeau, alors que les disciples, ils étaient sereins, ils savaient ce qui allait se passer. En fait, ils étaient tous dans le même état, ils n'avaient pas compris le message de Jésus, qui pourtant était très, très clair. Et là, on voit que dans le texte de Jean, même quand les femmes leur annoncent que ben, Jésus n'est pas dans le tombeau, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent eux aussi pour aller vérifier. C'est-à-dire qu'il ne leur vient pas à l'esprit que quelques jours auparavant, et même dans les Écritures, et même avant, ben, Jésus devait ressusciter. Donc là, on ne peut pas dire que nous sommes confrontés à un défaut de connaissance. Ils savaient. Ce n'est pas un défaut d'information. Et en plus, on parle de personnes les plus proches de Jésus. On parle de personnes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. On parle de personnes qui ont suivi Jésus pendant toute la durée de son ministère, ses propres disciples. Si encore il s'agissait d'un problème de mathématiques très, très compliqué, on se dit Jésus leur a parlé en parabole, il a dit des choses très complexes et ils n'ont pas compris. Mais là, pas du tout. C'était des phrases simples, sans ambiguïté. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Et on ne peut même pas dire que ce soit un défaut de vigilance, parce qu'on pourrait dire aussi, ils étaient peut-être distraits au moment où Jésus le disait, ils n'ont pas compris tout ce qu'il disait. Mais en fait, vous avez vu la fin de la phrase, quand on dit, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils en furent fort attristés. Donc bien, ils ont bien écouté ce que Jésus a dit, ils en ont été très attristés. Donc ils n'étaient pas du tout distraits à ce moment-là. Et en fait, le nœud du problème se trouve là. Quand Jésus leur a parlé, quand Jésus leur a annoncé ce qui devait arriver, ils étaient très attristés. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour où c'est vraiment arrivé? Ils étaient très attristés le jour de Pâques. Ils étaient découragés, ils étaient prostrés, accablés, inquiets pour leur présent, sans visibilité pour leur futur. Et pourtant, Jésus avait pris la peine de tout expliquer. « Mon corps sera crucifié pour vous et mon sang va couler à votre bénéfice. C'est ce qui scellera une nouvelle alliance entre mon Père qui est aux cieux et son peuple. » C'est la marque d'une nouvelle réconciliation avec Dieu. C'est une incroyable bénédiction pour vous qui espérez ce moment depuis des siècles. Il a été annoncé depuis des siècles et là, il arrive. Mais ils en furent très attristés. Alors, quel est le problème, à votre avis? Si ce n'est pas un défaut d'intelligence, si ce n'est pas un défaut de manque d'attention, qu'est-ce qui a manqué à toutes ces personnes très proches de Jésus pour comprendre? Si elles n'ont pas compris les paroles de Jésus, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas cru aux paroles de Jésus. C'est aussi simple que ça. Et c'est choquant. Toutes ces personnes si fidèles à Jésus, qui aimaient vraiment Jésus, qui croyaient vraiment que Jésus était le Messie, mais elles n'ont pas cru suffisamment en Jésus pour croire en sa résurrection. Leur foi était encore trop fragile. Leur foi était encore friable. Leur foi était encore immature. Leur foi avait encore besoin de grandir. Leur foi avait encore besoin de s'affermir. Et de la personne qui était les plus proches de la part de personnes qui étaient les plus proches de Jésus, c'est vraiment une constatation qui surprend. C'est une constatation, je dirais même, qui fait mal. On peut même dire que c'est un vrai constat d'échec. Les femmes et les disciples se sont comportés comme s'ils ne connaissaient pas vraiment Jésus. Comme s'ils ne connaissaient pas suffisamment les enseignements de Jésus et même les enseignements qui étaient dans les Écritures. Alors que pas du tout. On l'a vu, on l'a lu, tout avait été dit clairement. Et à cause de ce manque de foi, les femmes se sont rendues au tombeau ce dimanche matin pour s'occuper du corps d'un mort. Et elles se sont fait reprendre de voler. Elles se sont fait reprendre de voler par des envoyés de Dieu qui étaient là pour les remettre sur le bon chemin. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Pourquoi portez-vous le deuil de quelqu'un qui est vivant? Pourquoi êtes-vous peiné, plein de tristesse, de découragement et d'inquiétude, alors que Jésus est vivant? Pourquoi êtes-vous devant un tombeau à pleurer un mort alors que vous devriez vous réjouir de sa victoire et de sa résurrection? Et pas simplement de sa victoire et de sa résurrection, de votre victoire et de votre rédemption. Mais si encore cette question s'adressait à des païens ou à des inconnus qui n'étaient pas proches de Jésus, à la limite on aurait pu comprendre qu'ils se soient trompés. Peut-être qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'ils n'avaient pas écouté quand Jésus en parlait. Mais là, pas du tout. Il s'agissait de proches de Jésus qui étaient avec lui chaque jour. Et en partant de là, c'est vrai que quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment marqué. Mais pourquoi? Parce que quelque part, ça m'a fait penser à moi-même, ça m'a fait penser à nous. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que ce texte, d'une certaine façon, il me parlait aussi à moi. Il nous parlait aussi à nous qui sommes dans cette salle. Pourquoi est-ce qu'il nous parle à nous? Parce que nous aussi, nous sommes de ceux qui voulons suivre Jésus. Nous sommes de ceux qui voulons entendre parler de Jésus, de ceux qui aimons Jésus. Et trop souvent encore, nous sommes pris en défaut en ne croyant pas suffisamment à sa parole. Est-ce que dans notre vie quotidienne, nous vivons chaque jour comme si Jésus-Christ était ressuscité? Ou est-ce que nous continuons encore jour après jour d'aller chercher les morts parmi les morts, celui qui est vivant? Est-ce que dans notre vie quotidienne, nous vivons chaque jour comme si Jésus avait vaincu le monde? Ou est-ce que nous sommes souvent dans la tristesse, accablés parce que le monde nous fait subir et que c'est très difficile de trouver pleinement notre joie d'être enfant de Dieu? C'est vrai, des situations de tristesse, de difficulté, nous en avons tous. Nous en avons même bien plus que ce que nous aimerions bien en avoir. Et certains en ont plus encore que d'autres à certains moments. Et puis à d'autres moments, ça s'inverse. Et du coup, je me suis posé la question. Est-ce qu'en tant que chrétien, ça voudrait dire que nous n'avons plus le droit d'avoir d'autres sentiments que la joie? Est-ce que nous n'avons plus le droit d'être tristes? Plus le droit d'être en deuil, plus le droit d'être inquiet? Je pense que ce n'est peut-être pas la bonne interprétation à avoir. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que lorsque nous sombrons, lorsque nos sentiments se détériorent, lorsque nous sommes en train de perdre patience, de perdre confiance, lorsque nous sommes en train de nous décourager, notre Seigneur qui nous connaît par cœur, il sait ce qui va arriver. Il sait d'avance tous les problèmes que nous allons rencontrer. Il sait d'avance toutes les difficultés que nous allons traverser. Il sait d'avance tous les sentiments de tristesse et de peur qui vont nous envahir. Et il a par avance une solution pour nous. Il a par avance une solution pour nous redonner confiance et pour nous redonner notre joie que nous devrions avoir. Et c'est aussi ce qui s'est passé le jour de Pâques. Christ savait que malgré ses enseignements, aussi clairs soient-ils, malgré ses encouragements, ses disciples allaient quand même traverser des moments difficiles. Des moments où on peut perdre sa lucidité, des moments où on peut perdre courage, des moments où on oublie de penser à ce qui fait notre force, notre joie, c'est-à-dire notre victoire en Jésus-Christ. Et j'en veux aussi pour preuve, mais vraiment matérielle, ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre, vous vous souvenez? Dans Marc, au chapitre 14, verset 30, je lis, vous n'avez pas besoin d'y aller, l'histoire de l'apôtre Pierre rapidement. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient la même chose. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Marc au chapitre 14, au verset 30. Et si je vais un peu plus loin au verset 70, qu'est-ce qu'on voit ? Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre, « C'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il déclara, « Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. Jésus sait à l'avance que nous allons avoir des problèmes. Jésus sait à l'avance que nous n'allons pas forcément le croire à 100%, même si nous lui dit les choses de façon directe. Jésus n'est pas surpris par le fait que notre foi a encore besoin de continuer à s'affermir pour comprendre toutes les implications pour nous du salut. Mais si nous sommes sincères dans notre engagement envers Jésus-Christ, nous ne serons pas condamnés à cause de cela. Bien au contraire, lorsque nous avons un moment d'égarement, un moment de doute, un moment de faiblesse, Jésus sait par avance ce qui va arriver et il vient à nos côtés pour nous sauver, pour nous aider à nous relever, pour nous rassurer, pour nous soulager. Jésus n'est pas surpris. Il a déjà préparé par avance les paroles, les circonstances qui vont nous aider à reprendre courage. Nous redonner la joie de servir un maître aussi bon que lui. Les envoyés de Dieu dans le tombeau n'ont simplement à faire qu'à rappeler les paroles de Jésus qu'il avait déjà dit à ses disciples. Ils ont juste rappelé ce que Jésus avait déjà dit. Et cette fois, ils ont vraiment cru. Sans aucune restriction, ça veut dire que à ce moment-là, leur foi a fait des progrès. Leur foi s'est affermie. Lorsque nous avons foi en Jésus, le fait de se souvenir de ses paroles, le fait de méditer sa parole, le fait d'expérimenter aussi concrètement dans notre vie de chaque jour la parole de Christ, finalement, ça nous fait grandir. Ça permet à notre foi de s'affermir. Il y a aussi autre chose qui concourt à l'affermissement de notre foi. C'est l'amour que nous avons pour Jésus. Le désir de lui plaire, le désir de lui être agréable, le désir de le louer, de le glorifier, de lui rendre tous les honneurs qui lui sont dus. Comme ces femmes qui se sont levées tôt le dimanche matin. Pourquoi ? Pour aller honorer Jésus. Et c'est parce qu'elles avaient ce désir d'honorer Jésus qu'elles se sont retrouvées au tombeau. Et c'est parce qu'elles se sont retrouvées au tombeau qu'elles ont pu être confrontées à ce que Jésus avait prédit et elles ont cru. Tout est parti de l'amour qu'elles avaient pour Jésus qui les a poussées à aller au tombeau pour le louer, pour le honorer son corps. Mais c'est vrai qu'elles sont allées au tombeau parce qu'elles n'avaient pas encore au départ complètement intégré l'enseignement de Jésus. Mais le fait d'y aller, ça leur a permis de comprendre. Mais ça a permis encore autre chose qui, à mon avis, est encore un bonus auquel on doit vraiment faire attention. Qu'est-ce qui s'est passé quand elles ont enfin compris les paroles de Jésus ? Elles sont passées de la tristesse à la joie. Et ça, ce n'est pas négligeable. Quand on comprend totalement la portée de la bonne nouvelle, on passe de la tristesse à la joie. Désormais, plutôt que d'avoir à l'esprit simplement la mort de Jésus, elles peuvent se concentrer sur le fait que Jésus est ressuscité et que c'est une nouvelle extraordinaire pour nous. Alors avant de terminer, il y a juste encore un autre aspect de ce passage que j'ai trouvé extrêmement encourageant pour chacun d'entre nous. C'est les effets bénéfiques de la nouvelle alliance avec Dieu. Je m'explique. Là, on est confronté à des femmes et des disciples qui ont écouté la parole de Jésus et qui n'ont pas cru. D'une certaine façon, elles sont dans un état où elles sont de rébellion, si on peut dire. Elles n'ont pas cru à la parole. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elles n'ont pas cru à la parole, mais elles aimaient sincèrement Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Elles ne sont pas tenues pour rigueur de leurs péchés. Elles sont pardonnées. Vous voyez dans ce texte qu'en fait, on ne les a pas accablées, on ne les a pas punies. Au contraire, il y avait déjà un plan merveilleux de Jésus pour les relever. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont cru en Jésus. Leur foi n'était pas encore assez mature, mais simplement le fait de croire en Jésus. Mais déjà, elles étaient au bénéfice de la grâce. Et avec ce bénéfice de la grâce, elles ont été pardonnées et leur tristesse s'est transformée en joie. Alors, tout ça pour dire, on n'a pas forcément besoin d'avoir une foi immense, d'avoir la plus grande foi du monde pour être pardonné, pour être sauvé. La plus petite foi, déjà, dans la parole de Christ, nous permet d'être sauvés. Et c'est Christ lui-même, après, qui va prendre soin de faire ce qu'il faut pour la faire grandir. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut encourager chacun d'entre nous ici. Si vous cherchez à connaître Jésus-Christ, si vous avez déjà ce plus petit début de foi, mais lui, il va en faire quelque chose de grand. Et c'est vrai que nous soyons chrétiens, ou même pas encore aspirant à connaître Christ pour le suivre, il nous faut garder à l'esprit que celui qui nous accuse, celui qui veut nous accabler, ce n'est pas Christ, c'est le diable. C'est le malin qui est tout le temps à vouloir introduire le doute dans notre esprit, à nous rendre vulnérables, pour nous affaiblir, pour nous faire douter, pour nous rendre tristes. Christ, lui, a un objectif totalement opposé à cela. Il veut nous fortifier, il veut nous guérir, il veut nous redonner de la joie, il veut nous redonner confiance en lui. Il veut nous donner toutes les preuves de son amour. Et même dans les situations où nous nous trompons de chemin, il nous relève. Il est là pour nous sauver. Alors, je vous repose la question que j'ai posée au début. Est-ce que nous, enfants de Dieu, comment vivons-nous la bonne nouvelle de la résurrection de Christ? Est-ce que c'est quelque chose qui illumine notre vie tous les jours? Ou est-ce que nous persistons encore dans la tentation d'aller chercher parmi les morts, celui qui est vivant. Donc, en guise de conclusion, je veux rappeler simplement les points principaux que nous avons vus dans ce message. Christ est mort pour nos péchés, mais surtout, il est ressuscité des morts, ce qui veut dire qu'il a vaincu la mort. Le jour de Pâques est un jour de fête à cause de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas un jour de deuil, c'est un jour de fête. Et nous sommes tous les jours un jour de Pâques, parce que chaque jour, Christ est ressuscité. Nous ne vivons pas toujours pleinement dans la joie d'être disciples de Christ, et souvent, c'est à cause de notre manque de maturité, notre manque de foi. C'est une faiblesse qui concerne tous les chrétiens, même ceux qui sont les plus proches de Jésus, on l'a vu. Mais Christ n'est pas surpris par ce qui arrive. Il a prévu d'avance le moyen de nous sauver. Pour que notre foi s'affermisse, nous avons quand même un effort à faire de notre côté. Nous avons besoin de nous appuyer sur la parole. Parce que vous avez vu que c'est quand on a rappelé la parole à ces femmes au tombeau, qu'elles se sont dit, « Ah ben oui, Christ l'avait dit ça. » Mais si Christ ne l'avait pas dit avant, ben, il n'y aurait aucun rappel dans leur esprit. Nous avons besoin de nous appuyer sur la parole. Nous avons besoin de mieux connaître Jésus. Nous avons besoin de connaître sa parole, de méditer sa parole. Et en s'appuyant là-dessus, mais on pourra profiter pleinement de l'œuvre de Christ qui a fermé notre foi. L'autre point aussi, c'est que Jésus-Christ nous aime d'un amour qui n'a pas d'égal. Il a des projets de bonheur pour nous. Malgré tous les obstacles que nous pouvons rencontrer sur cette terre, rien ne peut surpasser la joie de lui appartenir. Parce qu'avec lui, en lui, nous avons la vie éternelle. Et je terminerai sur ce dernier point qui dit que nous vivons aujourd'hui encore, on ne sait pas pour combien de temps, mais nous sommes sous le régime de la grâce de notre Seigneur. Il ne nous condamne pas pour notre incrédulité si nous croyons sincèrement en Jésus-Christ. Alors pourquoi ne pas en profiter? Prions. Merci Seigneur parce que c'est vrai, toi, tu as la capacité de transformer un jour de tristesse en un jour de joie immense. Merci Seigneur parce que tu nous connais. Tu nous connais parce que c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as créés. Tu sais nos manquements, tu peux même les prévoir à l'avance, mais tu ne nous condamnes pas. Oui, c'est vrai, Seigneur, quand nous avons un élan sincère d'amour et de reconnaissance envers toi, au contraire, tu nous relèves, tu nous redonnes la joie. Et tu as même un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, quelle bonne nouvelle. Et Seigneur, si je voulais vraiment te prier que nous puissions chaque jour tirer parti, le bon parti de cette bonne nouvelle. Chaque jour, vivre comme si tu étais ressuscité, parce que tu l'es. Chaque jour, être dans la joie d'être appelé enfant de Dieu. Merci encore, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, chaque jour est un jour de Pâques. Chaque jour est un jour de joie. Et nous n'avons simplement besoin de nous attacher à toi pour en profiter. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, pour tout ce que tu fais encore pour nous aujourd'hui et que tu continueras à faire jusqu'au dernier jour. Amen.
Amen.